le début d'acte 4, c'était ça, c'était le procès qui est fait aux apôtres, justement pour avoir guéri cet homme. Mais surtout, en fait, le vrai procès, c'est pour prêcher le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils sont accusés. Et ils en ont aussi profité pour prêcher l'Évangile. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'Évangile. Et maintenant, on en est donc... On avait vu le verset 12, donc, que l'Évangile, c'était pour toute créature sous le ciel, c'est-à-dire tout être humain sous le ciel. Tous les êtres humains dans le monde sont concernés par l'Évangile. On avait vu, justement, qu'il y avait un arrière-plan commun à toute l'humanité, qui permettait donc d'avoir une certaine réceptivité pour recevoir l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, on va voir des versets 13 à 31. Donc je vais lire les versets 13 à 31. « Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'était des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. » Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, ils n'avaient rien à opposer. Alors, leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car c'est une chose connue de tous les habitants de Jérusalem qu'ils ont fait un miracle évident, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces, ne trouvant pas le moyen de les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme sur qui cette guérison miraculeuse avait été faite avait plus de 40 ans. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Eux, l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. » Et qui a dit par la bouche de David ton serviteur, « Pourquoi les nations sont-elles en rumeur ? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance de voir être faite. » Je continue, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Donc, dans ce passage, il y a un mot qui revient plusieurs fois, c'est le mot « hardiesse ». La hardiesse, ça veut dire le courage, l'autorité et l'absence de crainte. Donc, quand on fait quelque chose avec hardiesse, ça veut dire qu'on fait cette chose avec aucune crainte, sans crainte. Et donc, reprenons donc au verset 13. On voit au verset 13 qu'il y a deux choses qui vont étonner le tribunal donc, dans lequel Pierre et Jean sont accusés. Donc, deux choses qui vont en quelque sorte étonner les hommes, qui vont étonner en l'occurrence le tribunal, mais de façon plus générale les hommes. On voit au verset 13, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean. Donc la première chose qui étonne, c'est cette hardiesse. Et sachant que c'était des hommes sans lettres et du commun peuple, et ça c'est la deuxième chose qui va étonner les gens, c'est le fait que Pierre et Jean étaient des gens du commun peuple, des hommes de tous les jours, ce n'étaient pas des gens qui avaient une éducation particulière. Donc sachant que c'était des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement. Donc il y a deux choses qui étonnent les gens. Donc premièrement, la hardiesse, c'est-à-dire le courage et l'autorité avec lesquels les apôtres, et par extension les chrétiens, vont prêcher. Et ça, c'est un exemple pour nous. Je vous invite à regarder dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, c'est un exemple pour nous. Nous devons agir comme... nous devons prendre exemple sur les apôtres dans ce cas-là. Donc, nous devons prêcher avec hardiesse, c'est-à-dire sans crainte, avec courage. Car cette hardiesse avec laquelle nous allons prêcher va étonner l'auditoire. Donc, si nous voulons convaincre l'auditoire, si nous voulons convaincre les gens de se convertir à Jésus-Christ et d'obéir au reste de ses commandements, il faut prêcher avec hardiesse et autorité. Matthieu chapitre 7, verset 28. Matthieu 7, verset 28. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, Jésus étonne le peuple. La doctrine de Jésus étonne et elle suscite l'intérêt parce que Jésus prêche avec autorité. Les apôtres en acte 4, pareil, ils prêchent avec hardiesse, donc sans crainte, avec autorité, et cela étonne le peuple. Donc, pareillement, nous aussi, il faut que nous prêchions sans crainte, avec autorité, si nous voulons convaincre l'auditoire. Et c'est ce que nous voulons faire, puisque nous voulons convertir les gens. Marc, chapitre 1, verset 22, même concept, hein, Marc, chapitre 1, verset 22. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et non pas comme les scribes. Vous voyez, les scribes, c'est un peu les gens qui ne sont pas... ils connaissent les Écritures, mais ils ne sont pas très motivés par les choses qu'ils enseignent. Donc, bon, ils prêchent un petit peu de façon monotone, sans vraiment être intéressés par les choses qu'ils prêchent. Mais pour nous, cela doit être différent. Nous devons prêcher avec autorité. Et les scribes ne prêchaient pas avec autorité, c'est-à-dire qu'ils... L'autorité, c'est de dire « Dieu dit que, donc, vous devez le faire. » Ce n'est pas le chrétien qui dit « Vous devez faire ceci. » Mais c'est le chrétien qui dit « Dieu vous dit que vous devez faire ceci. » Avec autorité. Donc, c'est la première des deux choses qui étonnent le peuple. C'est leur hardiesse, leur courage, leur autorité. Deuxième chose, donc, qui va étonner les hommes... Donc, chez ses apôtres, acte 4, verset 13. Voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant que c'était des hommes sans lettres et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement. Donc, la deuxième chose qui étonne, c'est que ces hommes, en fait, sont issus des classes un petit peu, classes moyennes, voire même les classes les plus basses de la société, enfin, les classes pauvres, des hommes du commun, voilà, des hommes moyens, sans lettres. Donc, sans lettres, c'est-à-dire sans éducation de type religieuse. Ce ne sont pas des gens qui ont été à l'école biblique. Ce n'est pas des gens qui ont été à l'école religieuse ou qui ont eu un diplôme biblique. Et ils sont étonnés car c'est assez étrange de se faire enseigner les choses de Dieu par des gens qui n'ont pas de diplôme d'un quelconque institut biblique. Parce que souvent dans le monde, les gens vont respecter les diplômes. Si vous venez de telle école, que vous avez tel diplôme qui prouve que vous avez reçu tel enseignement humain, on va vous respecter, peut-être, mais souvent on vous respecte parce que vous avez ce diplôme. Et de même pour les choses de Dieu, on va souvent respecter et écouter un homme qui aura un diplôme. Et or, les apôtres n'ont pas de diplôme, et il est donc normal que cela suscite l'étonnement. En Jean chapitre 7, si vous voulez regarder Jean chapitre 7, nous avons un peu une histoire qui ressemble à ça. Jean chapitre 7, verset 45 à 49. Donc Jean chapitre 7, verset 45. Donc c'est une histoire un petit peu similaire où justement les gens, en l'occurrence c'est les pharisiens, donc qui considèrent que des hommes sans éducation religieuse, sans diplôme religieux, parce que l'équivalent c'est ça, ce serait un diplôme religieux. Donc les pharisiens considèrent que les gens sans diplôme religieux ne pourraient pas comprendre les Écritures. Jean chapitre 7, commençant à lire au verset 45, les sergents, donc ça c'est par exemple la police donc, qui aurait pu être envoyée pour arrêter les chrétiens, en l'occurrence c'est les sergents qui ont été envoyés pour arrêter le Christ. Ça pourrait être la police qui est envoyée pour arrêter un chrétien. Les sergents retournèrent donc vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Parce qu'ils avaient été envoyés pour arrêter Jésus. Les sergents répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, avec autorité. Donc, ils ont été subjugués par l'autorité de Jésus. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas arrêté. Les pharisiens leur dirent, avez-vous aussi été séduit ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette populace qui n'entend point la loi est exécrable. Donc, exécrable, ça veut dire que ça les énerve. En fait, ça les énerve que le peuple qui n'entend point la loi, c'est-à-dire qui n'a pas été enseigné selon la tradition juive et qui n'a pas été enseigné selon la connaissance des Écritures, ça les énerve que ce peuple, les gens du commun, puissent croire en Jésus. Parce que eux, ils considèrent que c'est les gens diplômés, les gens éduqués dans leur religion à eux, qui doivent enseigner les choses de Dieu. C'est pour ça qu'au verset 48, ils disent « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui, qui ait cru en Jésus ?» Autrement dit, s'il y avait quelqu'un des chefs, des gens éduqués, des gens religieux, éduqués dans la religion, qui avait cru en Jésus, et en fait, en vérité, il y en a qui ont cru en lui, mais bon. Leur argument, c'est de dire, s'il y avait quelqu'un d'éduqué qui avait cru en Jésus, là, à la limite, ce serait crédible. Mais, soi-disant, il n'y a personne d'éduqué qui a cru en Jésus, donc, pourquoi la populace, donc c'est très méprisant, pourquoi la populace, pourquoi les gens du commun devraient croire en Jésus ? Mais, nous voyons bien que dans Actes chapitre 4, donc en retournant dans Actes chapitre 4, nous voyons bien que Dieu utilise des hommes du commun, sans lettres, c'est-à-dire sans éducation religieuse particulière, pour proclamer les vérités de Dieu. Et donc ça, c'est un encouragement pour nous, c'est pour nous dire que nous n'avons pas besoin de diplôme, nous n'avons pas besoin de faire des études dans quelques organismes, dans quelques institutions humaines, justement pour être jugé digne d'enseigner les choses de Dieu, pour être jugé digne de prophétiser, de parler de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une quelconque éducation religieuse ou d'un quelconque diplôme. Si vous voulez aller dans le psaume 119, donc pour nous c'est un encouragement. En fait, tout ce qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. Nous avons besoin d'être proches de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. Psaume 119, en commençant au verset 97, psaume 119, verset 97, « Oh, combien j'aime ta loi !» Donc, ta parole, la parole de Dieu. « Oh, combien j'aime ta loi !» C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. « Tu me rends plus sage que mes ennemis par tes commandements, car ils sont toujours avec moi. » Donc là, on a quelqu'un qui médite sur la parole de Dieu tout le jour, c'est-à-dire toute la journée, il pense à la parole de Dieu, il pense aux commandements, à la Bible. Tu me rends plus sage que mes ennemis par tes commandements, car ils sont toujours avec moi. Donc c'est quelqu'un quand même qui connaît bien la parole de Dieu. Verset 99. J'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes témoignages sont mon entretien. Donc j'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, c'est-à-dire je comprends mieux les choses de Dieu que toutes les personnes qui m'avaient enseigné. Pourquoi ? Parce que tes témoignages sont mon entretien. Donc l'entretien, c'est le pain quotidien, c'est la nourriture quotidienne. Quelqu'un qui s'entretiendrait quotidiennement de la parole de Dieu peut passer, naturellement, aisément, facilement, peut passer en intelligence, en sagesse, tous ses enseignants. Car un chrétien converti, un croyant, n'a pas besoin d'enseignants autres que le Seigneur Jésus et que la parole de Dieu. Ce n'est pas que les enseignants sont inutiles, car les enseignants sont utiles, et même Dieu nous donne des enseignants, mais nous n'avons pas besoin. Chaque chrétien, même s'il n'a aucun diplôme, s'il est une personne commune, quelqu'un du commun, comme nous le sommes chacun d'entre nous, n'importe quel chrétien peut devenir très sage et connaître très bien la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de diplôme. Psaume 119, versets 129 et 130. Psaume 119, verset 129. Tes témoignages sont admirables. C'est pourquoi mon âme les a gardés. La révélation de tes paroles est claire. elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc quelqu'un qui serait simple, quelqu'un du commun, voilà, recevra l'intelligence grâce à la parole de Dieu. Bien sûr, la condition, c'est de méditer la parole de Dieu tous les jours, quotidiennement, quasi constamment. Sinon, bah, évidemment, si on ne lit pas la Bible, c'est sûr que la Bible ne va rien nous enseigner. Il faut la lire, quand même, tout le temps, tous les jours. Et on va surpasser tous les gens qui ont des diplômes. Donc les pharisiens, là en l'occurrence, même les juifs, tout le monde, ils n'ont pas de raison d'être étonnés des apôtres, puisque les apôtres ont été avec Jésus. En 1 Jean chapitre 2, verset 27, 1 Jean chapitre 2, verset 27, en parlant du Saint-Esprit, 1 Jean chapitre 2, verset 27, « Mais l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit que vous avez reçu de Jésus, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon qu'elle vous a enseigné. » Donc, il nous dit bien, vous avez le Saint-Esprit, vous autres chrétiens qui êtes convertis à Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit vous enseigne toute chose. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aider, car évidemment, ça peut aider si quelqu'un vous enseigne. Mais vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc, on retourne dans Actes chapitre 4. Donc, au verset 13, on voit que le Seigneur utilise des gens qui ont du courage, qui n'ont aucune crainte. Donc, il faut prendre exemple là-dessus. Quand nous prêchons la parole de Dieu, il ne faut pas que nous ayons la crainte des hommes. Et Dieu peut utiliser des gens sans éducation religieuse et du commun peuple, ce qui est un grand encouragement pour chacun d'entre nous, car nous sommes chacun d'entre nous des gens ordinaires. Verset 13, donc la fin du verset 13, « Et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. » C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que les gens puissent nous identifier avec Jésus. Ce n'est pas les diplômes de quelques collèges bibliques dans lesquels on serait allé ou pas, mais le plus important, c'est que les gens connaissent que nous sommes, que nous avons été avec Jésus et que nous le sommes encore. Continuons à lire, verset 14, « Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, il n'avait rien à opposer. Alors, leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car c'est une chose connue de tous les habitants de Jérusalem, qu'ils ont fait un miracle évident, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. » Donc là, c'est quand même très intéressant parce que au verset 14, il est dit, il n'avait rien à opposer. Donc il voit que l'homme qui avait été guéri, il est là présent. Donc il était handicapé, maintenant il est debout, il est présent, il est guéri. Il n'avait rien à opposer. Et même au verset 16, quand ils parlent entre eux, ils disent, à la fin du verset 16, « Et nous ne pouvons pas le nier. » Donc en fait, ils voudraient s'opposer à la doctrine de Christ, ils voudraient s'opposer aux apôtres, mais ils ne peuvent pas le nier, car c'est évident qu'un homme a été guéri miraculeusement. Ils voudraient le nier, mais ils ne peuvent pas. Ils voudraient s'opposer à la vérité, mais ils ne peuvent pas, car on ne peut rien contre la vérité, mais pour la vérité. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, je crois. On ne peut rien contre la vérité, mais pour la vérité. On ne peut pas s'opposer à la vérité. Et pourtant, il y a des gens qui veulent s'opposer à la vérité, malgré tout. Et c'est intéressant qu'on voit, un petit peu leur côté malsain, leur côté un petit peu... ils savent qu'ils sont coupables, parce qu'au verset 15, « Alors leur ayant commandé de sortir du Sanhédrin, ils délibéraient entre eux. » Donc, ils font sortir les apôtres parce qu'ils ne veulent pas que les apôtres soient témoins de leur malhonnêteté. Voilà, c'est ça. Ils sont malhonnêtes, ils veulent nier la chose que l'on ne peut pas nier. Donc, ils font sortir les apôtres car ils ne veulent pas que ces gens-là, que les apôtres, soient témoins de leur malhonnêteté. Et les gens malhonnêtes vont toujours faire ça. Ils ne vont pas faire leurs actions devant tout le monde. Ils vont vouloir faire leurs actions en complot. Ils vont vouloir faire un complot dans un coin et que personne ne les voit. Donc là, c'est ce qu'ils font. Et donc ce passage où, les autorités religieuses veulent nier l'évidence. Ça me fait beaucoup penser à Matthieu 28, où les chefs religieux vont payer les soldats romains pour mentir et pour dire que ses disciples ont enlevé le corps de Jésus pour faire croire à la résurrection. Alors que la vérité, dont les gardiens du tombeau ont été témoins, la vérité, c'est que un ange est venu, a frappé les gardes de frayeur à tel point qu'ils sont tombés par terre. Et c'est comme ça donc que le Seigneur Jésus, l'ange a retiré la pierre de devant le tombeau et le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Mais malgré la vérité, malgré la véracité de ce miracle, les chefs ont quand même payé ces gens-là, ils ont soudoyé pour qu'ils racontent un mensonge. Donc là, on voyait encore, donc c'est en Matthieu chapitre 28, il y avait cet exemple de malhonnêteté et vraiment des gens qui s'opposent à la vérité. Alors, c'est intéressant parce que en Actes chapitre 3, au verset 17, et ça on l'avait vu il y a plusieurs mois, mais en Actes chapitre 3, verset 17, quand Pierre va prêcher l'évangile à l'assistance donc, des Juifs, il leur dit, et maintenant frères, donc en Actes 3, verset 17, et maintenant frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos chefs. Donc, un petit peu avant, en Actes 3, 17, Pierre reconnaît que les gens ont agi par ignorance en crucifiant Jésus. Parce qu'ils pensaient sincèrement que Jésus était un imposteur. Un chapitre plus loin, en Actes 4, quand les apôtres sont devant le tribunal, on voit que maintenant ils n'agissent plus par ignorance. Ce sont maintenant des gens méchants qui agissent en toute connaissance de cause, qui s'opposent à la vérité. Et il y a ce thème dans la Bible, c'est que Dieu est patient et Dieu tolère, on va dire, c'est pas qu'il tolère, mais c'est que Dieu est plus patient avec les hommes qui agissent par ignorance. Mais il arrive un point où les gens sont informés de la volonté de Dieu, donc c'est-à-dire de l'Évangile, et à partir du moment où les gens sont informés de la vérité, Dieu, la patience de Dieu se raccourcit énormément. La patience de Dieu devient beaucoup plus courte. Car, c'est sûr, c'est normal, par ignorance, bon, on peut encore être patient avec cette personne-là. Mais si la personne sait la vérité et que la personne s'oppose à la vérité, Dieu devient beaucoup plus sévère. Donc, faisons attention à ce genre d'homme qui s'oppose à la vérité. Ça existe. Si vous voulez regarder en 2 Timothée chapitre 3, donc ça, c'est pour voir un petit peu que ce genre de personnes existent et donc qu'ils vont s'opposer à nous, les chrétiens. Et tout discours raisonnable, même un discours raisonnable, même des preuves, même la logique et des preuves, la gentillesse, ne convertira pas ce genre de personnes. Car ce genre de personnes s'opposera à la vérité contre toute raison. Il faut savoir que ce genre de personnes existent. 2 Timothée chapitre 3, verset 6. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péchés, entraînées par diverses passions. Donc c'est des gens qui veulent enseigner des mensonges à des personnes vulnérables. Verset 7. Qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ça, c'est très effrayant. Ça parle de personnes qui sont toujours à écouter l'Évangile, toujours ils écoutent les choses de Dieu, mais jamais ils ne peuvent parvenir à la connaissance de la vérité. Leur esprit est comme bloqué et ils s'opposeront toujours à la vérité. Verset 8. Et comme Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, donc on suppose que c'est les mages qui s'opposent à Moïse dans Exode, en faisant de la magie contre les miracles que Moïse va opérer. Et comme Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvé quant à l'égard de la foi. Donc ce n'est pas des gens ordinaires qui agissent par ignorance, c'est des gens qui agissent en toute connaissance de cause, ils résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. C'est-à-dire qu'ils ont refusé la foi et ils ne peuvent plus croire. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Donc, il faut avoir confiance que Dieu va justement faire apparaître ces gens-là comme les gens corrompus qu'ils sont. Et c'est le cas ici, donc, dans ce tribunal, ils veulent nier l'évidence envers et contre tout, et ils montrent leur malhonnêteté, car ils veulent agir en secret. C'est pour ça qu'ils font sortir les apôtres du Sanhédrin, du tribunal. Donc, comme ils ne peuvent pas raisonnablement s'opposer au miracle qui a été fait et à la doctrine de Christ, ils utilisent les menaces. Donc, c'est les choses qui vont très bien pouvoir être aussi utilisées contre nous. Verset 17, acte 4, verset 17, les menaces. « Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. » Donc, on voit que leur préoccupation, ça reste de garder le contrôle sur le peuple. Hein. C'est ça la préoccupation des autorités religieuses. Et c'est pour ça que, pareil, nous aussi, on va être opposés par les autorités religieuses. C'est parce que les autorités religieuses contrôlent les populations grâce à leurs mensonges, avec leurs mensonges. Donc ça explique, on l'avait déjà vu une fois précédente, ça explique pourquoi les autorités religieuses sont contre le Christ et contre les chrétiens. C'est parce qu'ils veulent garder le contrôle sur le peuple. Verset 18. Et les ayant rappelés, donc ils font revenir les apôtres dans le tribunal, et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc là, c'est très intéressant, verset 18. Ils leur défendirent absolument de parler, donc sous aucun prétexte, vous ne devrez parler de Jésus. Dorénavant, vous êtes totalement interdit de parler de Jésus. Mais d'un autre côté, Jésus lui-même, qui nous dit en Matthieu 28, on va le lire rapidement, Matthieu 28, bien sûr, verset très connu, Matthieu 28, verset 18, Matthieu 28, verset 18, « Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc, d'un côté, on a le Seigneur Jésus qui nous dit, allez-y, parlez, instruisez de tout, parlez de tout, enseignez tout. Et en plus, toute puissance lui a été donnée, donc tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée. Et donc, il a transféré cette autorité à nous autres. Donc, d'un côté, il y a le Seigneur Jésus, il y a Dieu lui-même qui nous commande de tout dire, de tout prêcher. Et de l'autre côté, il y a des hommes, les autorités religieuses, donc n'importe quel homme, hein, qui disent « interdiction absolue ». Donc là, il y a un choix à faire. Et c'est intéressant, en acte 4, verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc, ils font appel à leur, encore une fois, ils font appel à leur raison. Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc, il y a les commandements des hommes, le commandement des hommes, c'est-à-dire arrêter de prêcher, et il y a le commandement de Dieu. Continuez à prêcher jusqu'à la fin du monde. Il y a ces deux commandements qui entrent en conflit. Il faut obéir auquel ? Qui est supérieur à qui ? Bon, la réponse est évidente, c'est Dieu qui est supérieur, donc il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je trouve ça très, très intéressant, parce qu'en acte 5, nous, on le verra peut-être si on finit par y arriver, en acte 5, il dit au verset 29, « Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc en acte 5, il le dit clairement, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » En acte 4, il ne le dit pas directement, il leur demande à eux de juger. Mais en fait, la logique, la raison, on veut qu'on obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une excellente attitude des apôtres, donc il faut qu'on ait la même attitude si on nous interdit de prêcher quoi que ce soit, et ça se pourrait. Avec, je n'ai pas étudié la question, mais la fameuse loi sur le séparatisme ou je ne sais pas quoi, qui nous interdirait, enfin il faudrait se renseigner sur ce que ça nous interdirait exactement, mais qui nous interdirait de parler de certains sujets, sujets politiques ou que sais-je, eh bien, même si on nous interdisait absolument de parler d'un quelconque sujet biblique, eh bien il faudrait dire, si l'autorité venait et nous interdisait, il faudrait leur dire, jugez vous-même, est-ce qu'il nous faut obéir à vous plutôt qu'à Dieu ? Bon. Que chacun réponde à cette question-là pour soi-même. Et la Bible nous répond, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Où est l'autorité supérieure ? Romains chapitre 13, versets 1 à 3. Il faut toujours reconnaître l'autorité supérieure et obéir à l'autorité supérieure. Et l'autorité qui est la plus haute, c'est Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures. Donc, respectez la hiérarchie. Car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a établi un gouvernement. Dieu a établi la notion de gouvernement et la notion d'autorité et de chaîne hiérarchique. Donc, il faut s'y soumettre. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances ? Fais le bien et tu en seras loué. Donc, d'ordinaire, et c'est l'application principale de ce passage, d'ordinaire, quand on lit le verset 3, on l'interprète que on ne doit pas craindre la police si on ne fait pas de crime. Et c'est vrai, c'est la première interprétation de ce passage, c'est qu'un chrétien, enfin n'importe quelle personne, mais en particulier nous les chrétiens, il faut absolument pas qu'on fasse de crime. Donc, si on ne fait pas de crime, on n'a absolument rien à craindre de la police. Mais quand même, on peut quand même avoir des ennuis avec les autorités pour des choses juste pour le fait de prêcher la parole de Dieu. Donc, j'interpréterai le verset 3 d'une façon un petit peu... j'y ajouterai une autre lecture, une autre interprétation. Ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions. Donc, si vous faites une bonne action comme prêcher la parole de Dieu, vous n'aurez pas à craindre la police, hein, pour dire ça simplement, les autorités, même si ces autorités-là sont contre vous et veulent vous arrêter. Car vous faites une bonne action. Vous faites une bonne action, vous prêchez la parole de Dieu, vous n'aurez pas à craindre ces autorités-là, même si elles s'opposent à vous. Car si, par où vous êtes là, vous êtes en bas, ensuite il y a les autorités humaines, et ensuite il y a Dieu, si les autorités humaines qui sont intermédiaires s'oppose à vous en contradiction avec ce que l'autorité supérieure, c'est-à-dire Dieu, dit, eh bien, il faut ne pas craindre l'autorité du milieu, l'autorité intermédiaire, qui n'est qu'une autorité intermédiaire, hein, mais il faut craindre l'autorité qui est supérieure. Voilà. Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Donc, nous ne devons pas reculer devant les menaces, parce que sinon, ben... la parole de Dieu ne sera pas prêchée. Nous ne devons pas reculer devant les menaces. Nous devons avoir confiance en Dieu. Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Donc, le contexte, c'est de prêcher. Donc, Jésus donne des instructions à ses disciples. Luc chapitre 12, verset 4. Et je vous dis, à vous mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la Géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer, c'est-à-dire dans l'endroit où les morts souffrent pour l'éternité. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Donc, il faut craindre Dieu. Nous autres, les chrétiens, nous devons craindre Dieu plutôt que les hommes, qui sont en dessous. Non pas parce que Dieu menace de nous envoyer nous en enfer, justement, c'est l'intérêt de s'être converti, c'est que justement, on n'a plus à craindre l'enfer. C'est pas parce que Dieu va nous envoyer, nous, en enfer, que nous devons le craindre, mais Dieu a le pouvoir d'envoyer en enfer. C'est-à-dire, nous ne devons pas craindre la personne qui nous persécute, laquelle sera envoyée en enfer si elle ne se convertit pas à la même foi, à la foi qui est la nôtre. Donc si cette personne continue à nous persécuter et ne se convertit pas, elle sera envoyée en enfer par celui qui a le pouvoir d'envoyer en enfer. Donc nous ne devons pas craindre cette personne-là. Et nous devons continuer à prêcher la Bible. Donc acte 4, continuons dans acte 4. Acte 4, verset 19, « Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Si on obéissait aux hommes plutôt qu'à Dieu, si les commandements de Dieu entrent en contradiction avec les commandements de l'homme, et qu'on obéit aux hommes plutôt qu'à Dieu, c'est pas juste devant Dieu. Donc on commet un péché devant Dieu, on commet une faute devant Dieu. Donc même pour nous, il faut qu'on fasse attention, parce que Dieu peut nous punir plus sévèrement que le peuple, les hommes. Verset 20, car pour nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Là, on voit un petit peu le cœur des apôtres, parce qu'en fait, les apôtres sont animés du Saint-Esprit de Dieu, ils aiment la parole de Dieu, et ils sont zélés pour proclamer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas ne pas dire les choses que nous avons entendues, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. C'est trop fort, même si vous nous dites de nous taire, c'est trop fort, c'est trop bien, l'Évangile est trop merveilleux, on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester silencieux. Même si quelqu'un nous l'interdit, bon, je veux bien que vous m'interdisiez, mais moi, je ne peux pas, je suis trop zélé. L'Esprit de Dieu, quand il est en un chrétien, quand un chrétien est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est naturel, ça sort du cœur, voilà, ça sort du cœur. Et on ne peut pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Ben oui, c'est notre rôle ici, c'est notre mission, c'est notre raison de vivre. C'est de parler de l'Évangile, de parler de ces choses merveilleuses. C'est notre raison de vivre. Donc, si on ne peut plus en parler, ben, autant mourir, autant aller directement à la maison avec Dieu. Jérémie, chapitre 26. Jérémie, chapitre 26. J'aime bien ce feu intérieur qu'ils ont. Ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ben, on a trop de zèle intérieur. Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Donc, Jérémie, dans le livre de Jérémie, tout au long du livre, il n'arrête pas de prêcher la destruction de Jérusalem et de Juda, parce que Jérusalem et Juda ont complètement abandonné Dieu, ils ont commis des péchés sans nombre, des péchés effroyables. Donc, Jérémie, constamment, hein, il prêche un message négatif, un message qui n'est pas populaire. Donc ça peut être le cas de nous aussi, les chrétiens. On va prêcher des messages qui ne seront pas populaires. Et donc c'est le cas de Jérémie. Jérémie, chapitre 20, verset 7. Donc c'est Jérémie qui parle. « Ô Éternel !» Donc il parle à Dieu. « Tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu as prévalu. » Donc là, je pense que ce qu'il dit, c'est que... En gros, il dit, tu m'as ordonné de prêcher, de prophétiser, et moi, je prophétise. Je me suis laissé persuader, en quelque sorte, de prophétiser. Tu m'as saisi et tu as prévalu. C'est-à-dire, tu as été plus fort que moi. C'est-à-dire, quand Dieu m'a dit de prophétiser, je n'ai pas pu dire non. C'est ça, hein, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. On le voit aussi chez Jérémie. Tu m'as saisi et tu as prévalu. Je n'ai pas pu dire non quand tu m'as commandé d'aller prophétiser. Je suis un objet de raillerie chaque jour. Chacun se moque de moi. Donc les gens se moquent de Jérémie parce que Jérémie est le seul à prophétiser. Il prophétise. Car depuis que je parle, verset 8, car depuis que je parle, je jette des cris. Je crie violence et oppression. Il crie violence et oppression parce qu'on l'oppresse, parce qu'on le persécute. Et la parole de l'Éternel s'est tournée pour moi en opprobre et en moquerie tout le jour. Donc les choses que je prêche, les choses que je prophétise, eh ben, les gens se moquent de moi à cause de ça. Verset 9, et quand je dis, donc il en a marre, Jérémie en a marre, d'être persécuté pour la parole de Dieu. Donc, et quand je dis, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom. J'en ai marre, j'arrête de prêcher, j'arrête de prophétiser. Il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Jérémie, dans son cœur, il y a un feu. Jérémie est extrêmement zélé et motivé par la parole de Dieu, par proclamer la parole de Dieu. Je m'efforce de le contenir parce que j'en ai marre de me faire battre. Donc je vais arrêter de parler, j'en ai marre de me faire battre. Je m'efforce de contenir cette parole de Dieu qui est en moi, mais je ne peux pas, mais je ne le puis. J'adore, c'est magnifique. Donc c'est un petit peu le même état d'esprit dans lequel sont les apôtres. Ils ne peuvent pas contenir ces choses-là. Et que Dieu fasse que nous autres, nous aussi, nous ne puissions pas nous contenir, car c'est le but de notre vie, c'est notre raison d'être en tant que chrétien. Donc même si c'est interdit, prenons exemple sur Jérémie et prêchons toute la Bible. Et Dieu peut nous délivrer. On va être persécuté, on va être peut-être battu, etc. Mais Dieu peut nous délivrer. Donc il faut avoir confiance en Dieu, il faut s'assurer en Dieu. En Jérémie chapitre 26, il raconte un petit peu comment il est délivré, justement. Oui. On va pas étudier ça prendrait un peu trop de temps. Mais en Jérémie 26, il raconte comment justement le Seigneur le sort de tous ses problèmes, le délivre de toutes ses persécutions. Donc tirons-en un encouragement pour nous aussi, c'est que même si nous sommes persécutés pour la parole de Dieu, Dieu est tout à fait capable de nous faire traverser toutes ces épreuves intactes. Donc continuons donc notre étude dans Acte 4. Continuons donc dans Acte 4, verset 21. Ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces, encore, hein, comme au verset 17, au verset 21, cette fois-là, ils mettent leurs menaces à exécution, enfin, ils font des menaces. Ils les renvoyèrent donc avec de grandes menaces, ne trouvant pas le moyen de les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ceux qui étaient arrivés. Donc on voit que Dieu peut faire en sorte qu'ils échappent à la punition, cette fois-là en tout cas. Verset 22, « Car l'homme sur qui cette miraculeuse guérison avait été faite avait plus de 40 ans. » Donc en fait, ça étonne le peuple glorifie Dieu, le peuple pense que Dieu est encore et très très puissant. Pourquoi ? Parce que l'homme sur qui cette guérison miraculeuse avait été faite avait plus de 40 ans. Comme si le fait de guérir un homme de plus de 40 ans était plus incroyable que de guérir un homme qui aurait 15 ans ou 20 ans. C'est rigolo parce qu'en fait, pour Dieu, c'est pareil. Guérir quelqu'un qui a 98 ans ou guérir quelqu'un qui a 15 ans, ça ne fait pas de différence pour Dieu, puisque Dieu est tout puissant. Donc pour lui, il peut guérir n'importe qui. Mais c'est quand même rigolo de voir que ça impressionne plus le peuple, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète ce verset. Ça impressionne plus le peuple parce que l'homme a plus de 40 ans. Alors qu'en fait, pour Dieu, c'est pareil. Qu'il ait 40 ans, 90 ans, 20 ans, c'est une guérison miraculeuse. Pour Dieu, c'est pas une grosse affaire. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si vous avez plus de 40 ans, ou même encore plus, ou même plus de 90 ans, ou j'en sais rien, sachez que Dieu peut travailler sur vous quand même. Ne soyez pas étonnés que Dieu puisse travailler sur vous, même si vous avez plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans, il n'y a aucun problème pour Dieu. Ça étonne le peuple, mais en fait, ça ne devrait pas les étonner. Et nous, ça ne devrait pas nous étonner que Dieu puisse travailler sur nous et nous changer, nous rendre meilleurs, même si nous sommes un petit peu plus âgés. Voilà, il n'est jamais trop tard pour que Dieu puisse faire des miracles et que Dieu travaille sur vous. Continuons donc verset 23. Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc là, on a une réaction tout à fait correcte des apôtres face à la persécution. Donc la réaction face à la persécution, c'est pas de combattre en retour. C'est pas ça, évidemment. Donc les apôtres, ils vont pas se battre et faire des menaces en retour. Parce qu'on les a menacés, mais eux, en retour, ils vont pas faire des menaces. La bonne réaction, elle est vue au verset 23 à 24. Verset 23, « Après qu'on les eut relâchés, ils vinrent vers les leurs. » Donc la première chose à faire, c'est de retourner à l'église pour partager cette souffrance, pour informer d'abord les autres membres de l'église de cette souffrance qu'ils ont traversée, de ces menaces qu'ils ont subies. Et donc pour que la souffrance puisse être partagée dans l'église, c'est très important de ne pas affronter ce genre de persécution seul. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, donc 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le passage qui parle de l'église comme d'un corps. Donc Dieu nous compare l'église locale, donc notre assemblée de chrétiens, avec un corps humain. Donc nous sommes tous liés ensemble. Et de la même façon qu'un corps humain est lié nerveusement, donc si vous souffrez dans votre main, en fait c'est tout votre corps qui souffre. Si vous souffrez dans votre pied, c'est tout votre corps qui est dans l'inconfort. Eh bien, pareil dans l'Église. Si dans l'Église, l'un de nous est persécuté, eh bien, il faut que ce frère ou cette sœur vienne à l'Église et raconte ces persécutions-là pour que toute l'Église puisse aider ce frère ou cette sœur dans ses difficultés, dans ses persécutions. De la même façon que si le pied subit une blessure, une douleur, le pied va envoyer un message nerveux de douleur vers le cerveau, eh bien, de la même façon, un chrétien qui souffre devrait renvoyer un message de douleur à son église pour que son église puisse souffrir avec. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26, 1 Corinthiens 12 26, en parlant donc de l'église comme d'un corps. Aussi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Donc, puisque nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes comme un corps humain, eh bien, nous devons, quand nous subissons des douleurs, nous devons les partager au reste de l'Église pour que l'Église puisse nous aider dans ces souffrances. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée, qui lui dit, voilà, souffre avec moi, partage mes souffrances. Même si c'est Paul qui a été attaqué de front, c'est Paul qui a été attaqué en premier, et bien il demande à Timothée de souffrir avec lui. C'est ça une église. Donc au verset 23, on voit bien que ils vont vers leur église et ils racontent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et on va finir au verset 24. Eux l'ayant entendu, donc l'église l'ayant entendu, ayant entendu ces menaces qui sont tombées sur les apôtres, eux l'ayant entendu, élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent. Et ensuite, il développe une prière à Dieu qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Mais donc on voit le réflexe, la réaction, la bonne réaction qu'il y a face à la persécution, face aux menaces, c'est premièrement d'aller à l'église pour partager cette souffrance, pour partager cette menace, ce danger, cette menace. Et deuxièmement, la réaction de l'église. Donc l'église, que doit faire l'église? L'église doit prier. L'église doit prier pour demander l'aide de Dieu. Donc, on ne va pas se rassembler en église pour s'opposer directement aux autorités, mais on va demander à Dieu d'intercéder pour nous aider. Et c'est donc ce qu'ils font. Ils élèvent la voix d'un commun accord. Donc, ils se sont bien mis d'accord ensemble pour prier avec un même esprit, d'un commun accord. Comme il est dit donc, dans Colossiens, par exemple, dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, et on va finir là-dessus. Donc très important, face aux difficultés, face à la persécution, que l'Église prie ensemble d'un commun accord pour demander l'aide de Dieu. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 4. Persévérez dans la prière, y veillant avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ, à cause de qui je suis dans les chaînes, et que je le fasse connaître comme il faut que j'en parle. » Donc, Paul leur dit voilà, de prier pour nous, c'est-à-dire nous les apôtres, les gens qui prêchons l'Évangile. Et l'objectif, c'est quoi? Au verset 3, « Afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ. » Donc l'objectif, c'est toujours de faire connaître l'Évangile. L'objectif, c'est toujours de faire connaître le mystère de Christ. À cause de qui? Je suis dans les chaînes. Donc à cause de qui? Paul est quand même en prison. Il ne faut pas l'oublier. Paul était quand même en prison pour avoir prêché l'Évangile de Christ. Et l'Église, les Églises et l'Église lui doit son soutien dans la prière. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si jamais on était persécuté, si l'un d'entre nous allait en prison à cause de la parole de Dieu, eh bien, notre première réaction devrait être de prier intensément, d'un commun accord, pour, oui, certes, la libération de cette personne, mais dans le but de répandre encore plus la parole de Dieu. Voilà. Conclusion. Donc, ce qu'on a vu, tout d'abord, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'une éducation religieuse agréée par les hommes pour parler des choses de Dieu. Mais les gens communs peuvent être rendus très sages s'ils sont quotidiennement dans la parole de Dieu, s'ils méditent quotidiennement la parole de Dieu. Les gens du commun peuvent être rendus plus sages que les enseignants, soi-disant enseignants bibliques, etc. Donc, tirons-en un encouragement pour nous. Et un encouragement pour lire la parole de Dieu, autant que possible. Deuxième point donc, qu'on a vu, soyons avertis des hommes, donc qu'il y a certains hommes qui s'opposent à la vérité contre toute raison, des hommes qui sont déraisonnables, des hommes qui s'opposent à toute raison, voilà, qui ne sont pas raisonnables. Donc soyons avertis, faisons attention, soyons sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes, comme nous dit le Seigneur Jésus. Sachons que ces gens-là existent et qu'ils s'opposeront à nous. Ne craignons pas les hommes, mais obéissons plutôt à Dieu. Et en cas de persécution, en cas d'opposition, notre réaction, donc la première réaction que nous devrions avoir, c'est d'en faire part à l'église locale, de se réunir pour pouvoir souffrir ensemble et pour pouvoir combattre ensemble par la prière pour demander à Dieu son aide et son intercession. Amen.